Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés. On est ravis, enfin je suis ravie après mon échappée lyrique récente de revenir avec vous en ce mardi 11 février. On a le DAF qui ronfle comme si sa vie en dépendait. J'espère qu'il va se calmer parce que encore une fois, après on nous fait des remarques en nous disant qu'on n'entend que lui.
Oui, c'est pas faux.
Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une jeune stagiaire en la personne de Ambre, qui est une jeune stagiaire de 3e et qui vient faire son stage découverte avec nous.
Que vous ne voyez pas, mais elle est là.
Oui, voilà, elle est là. Bah, oui, on garde son intimité quand même. On ne va pas l'afficher, comme disent mes filles. Alors, avant de commencer cette émission de questions, je voulais juste faire un petit point parce que j'ai lu hier un tweet qui m'a exaspérée, qui était sur Blast, qui est l'émission de Denis Robert, et qui disait en substance, donc il y avait Denis Robert avec un intellectuel, qui nous expliquait que les libéraux avaient été responsables de la montée du nazisme en Allemagne. Alors, je commence à en avoir vraiment ma claque d'entendre toutes ces inepties à propos du libéralisme, tout ça parce qu'effectivement, Milley est à la mode. Mais j'aimerais juste rappeler quand même que des libéraux forcenés comme Mises et Hayek, on vous en a parlé ici, ont fui justement l'Allemagne nazie, ont été obligés pour certains, de partir en Australie.
Ça, c'était Karl Popper.
Non, mais c'est... Hayek aussi, puisque avant que Mises ne le fasse venir...
Non, Hayek, il était parti à Londres, et de là, il était parti à Chicago.
À Chicago, voilà. Chicago. Enfin, bon, bref.
Et avant Mises, il est parti directement aux États-Unis, je crois.
Alors, qui était parti à Christchurch?
C'était Karl Popper.
Karl Popper, voilà.
Karl Popper.
Donc, on n'y allait
et
pas...
Et qu'ils n'étaient pas tous juifs, hein. Parce qu'il y en avait tout un tas qui étaient juifs, mais ils n'étaient pas tous juifs, ils étaient partis simplement parce qu'un libéral ne peut pas vivre dans un pays... qui n'est pas
et en
libre.
France, on a eu donc Raymond Aron qui était fortement opposé à Vichy, on a eu Jacques Rueff qui était aussi quand on a parlé de Rueff, on sait que pendant la guerre, il était aussi allé se mettre à la campagne un peu
Marseille, oui, je crois.
Donc, au bout d'un moment, l'antilibéralisme de tous ces intellectuels de gauche commence à devenir un petit peu pathétique et commence à nous courir un petit peu sur le haricot. Donc, je voulais pas en faire un plat.
C'est faux.
C'est structurellement faux. Donc, au bout d'un moment, c'est comme de raconter que les Algériens ou d'autre part auraient construit le métro de Paris. Au bout d'un moment, arrêtez d'inventer des faits.
Oui, les faits sont faux, mais c'est surtout la théorie qui est fausse parce que le fascisme, qui était d'origine italienne, la définition du fascisme, c'était tout pour l'État, tout par l'État, rien en dehors de l'État. Et le nazisme, qui était national-socialiste, c'était un socialisme, et la première des choses que Hitler a fait en arrivant au pouvoir, c'était de mettre en place les 10 des 12 ou 13 propositions de Marx. Donc, si vous voulez, encore une fois... L'essence du libéralisme, c'est la supériorité de l'individu sur la tribu.
Exactement.
Et l'essence du socialisme, c'est la mise sous contrainte de l'individu au profit d'un groupe défini par
une espèce
d'élite.
D'une société, voilà.
Et c'est les élites qui décident ceux qui font partie du groupe, ceux qui en font pas partie. Donc, le libéralisme est l'ennemi total et toujours, c'est pas possible autrement, de tout socialisme et de tout étatisme. Le libéral reconnaît l'existence, la nécessité de l'existence d'un État, mais il prend ça comme un mal nécessaire. Mais il ne prend pas ça comme le but de l'organisation de la société, c'est pas d'avoir un État. L'État est nécessaire pour que les individus puissent être libres. Donc encore une fois, cette espèce de façon de déformer les mots, c'est exactement ce qu'il y avait, vous savez, dans le livre 1984, c'est de la nouvelle langue, c'est-à-dire qu'on dit la liberté, c'est la contrainte, l'esclavage, c'est la liberté, enfin bref.
Et si
vous dites le contraire du sens des mots, donc libéralisme, ça veut dire liberté.
Et on voit bien pourquoi ils cherchent à faire ça, encore une fois, c'est que le régime de Milley est en train de fonctionner.
Et celui de Trump.
Et celui de Trump, l'Algérie aussi, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent... Oh là là, là là, vous ne vous rendez pas compte, puisque les libéraux ont entraîné le fascisme, regardez, nous sommes aux portes du fascisme. C'est la seule façon d'hurler attention au loup, eux continuent à survivre.
C'est eux le loup, parce que c'est eux qui ont fait croître la part de l'État dans l'économie de 30 à 60%. Et vous ne pouvez pas dire qu'en France, nous sommes un pays libéral, c'est n'importe quoi. Donc, encore une fois, on revient à ce que j'ai souvent dit ici, c'est l'importance du logos. Logos, c'est la langue, c'est l'expression. Si vous réussissez à faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils sont censés dire, vous pouvez mentir au peuple. Et c'est ce qu'ils font sans arrêt. Donc, encore une fois, faites attention au sens des mots. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que le libéralisme et le fascisme, c'est la même chose que c'est vrai. C'est faux. Et quelqu'un qui vous le dit, soit il ne le sait pas et c'est un imbécile,
soit il le sait et c'est une crapule.
C'est ce que j'ai souvent dit aussi, vous savez, c'est qu'on ne peut pas être à la fois socialiste, intelligent et honnête. Vous devez choisir 2 sur 3. Et là, si vous voulez, ces gens-là, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent, ils savent que nous savons, et ils continuent à mentir. Vous savez ce que disait Solzhenitsyn, donc. Encore une fois, la référence du libéralisme, c'est la notion chrétienne que nous avons, qui est que Dieu ne s'est compté que jusqu'à 1. C'est-à-dire que votre but dans la vie, c'est d'essayer de savoir le projet que Dieu a pour vous individuellement, et ce projet, c'est à vous de le trouver et de le faire. Et donc, l'ennemi naturel du chrétien, c'est le socialisme et c'est le communisme. Et d'ailleurs, chaque fois que les socialistes arrivent au pouvoir, ou les communistes, la première des choses qu'ils font, c'est de s'attaquer aux chrétiens. Toujours. Et c'est ce que disait Le Pen, qui avait des bonnes formules. Quelqu'un lui disait, est-ce que vous êtes fasciste? Il disait, est-ce que vous êtes nazi? Je sais pas quoi. Il a dit, je ne suis pas assez socialiste pour être fasciste. Et donc, c'est ça la vérité, je ne suis pas assez socialiste pour être fasciste. Si vous êtes socialiste, vous êtes dans l'âme fasciste.
Alors, attaquons-nous un petit peu aux questions. J'en ai une qui revient souvent, et en fait qui est une question de souveraineté, quelque part, autour du FMI. C'est-à-dire, les gens disent, nous parlons souvent du fait que l'État va faire faillite, mais en réalité, ils n'arrivent pas à comprendre, et pourtant, on l'a dit souvent, mais ce n'est pas grave, on va le redire, comment ça pourrait se passer en pratique.
L'État ne fait pas faillite, c'est les gens, parce que l'État, il ne fera jamais faillite, puisqu'on ne peut pas aller chercher les biens de l'État pour les vendre sur la place publique. Donc
alors
l'État,
justement,
il cesse d'être capable de vous payer.
Alors justement, c'est un peu ce qui se passe, c'est la question. La situation actuelle de la France nous fait penser que la France pourrait faire faillite. Est-ce que la situation de la France est pire que celle des pays qui ont pu se rétablir, comme par exemple la Grèce, ou des pays d'Europe du Nord, j'imagine qu'on pense à l'Islande, et qu'est-ce qui se passe à ceux qui n'y sont pas parvenus? Alors, en fait, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a vu des gens comme Thomas Porcher arriver en disant « Oui, mais finalement, c'est pas si grave parce qu'on pourrait prendre les actifs de la France et les vendre. »
C'est pas les actifs de la France, c'est les actifs des Français.
Voilà.
Les actifs des Français. Et, si vous voulez, tous ces gens de gauche, encore pour dire la même chose, ils n'ont aucun respect pour le droit de propriété. Et le droit de propriété, c'est ce qui permet philosophiquement à chaque citoyen de résister contre son propre État. C'est-à-dire, si vous avez des actifs à vous, que l'État ne peut pas piquer, à ce moment-là, vous pouvez vous défendre contre l'État. Donc, ce que disent tous ces gens-là, c'est pas grave. Si vous êtes dans un pays qui a été géré comme des cochons par des criminels, c'est le cas de la France, ces criminels peuvent, au nom de la France, aller chercher vos biens individuels. Mais c'est anticonstitutionnel, puisque le droit de propriété est dans le préambule de la Constitution. Donc, c'est une autre façon de dire, je vais faire payer à ceux qui ne sont pas responsables du désastre, le désastre. Et vous remarquerez que ces gens-là, en général, se débrouillent pour tourner les élections ou faire n'importe quoi. Donc, encore une fois, l'État français peut faire faillite, ça ne veut pas dire que la France fera faillite. Ça veut dire que l'État français fera faillite, c'est-à-dire qu'il ne sera plus capable d'emprunter. C'est ce qui est arrivé à l'Argentine. Et à partir du moment où ni sa monnaie, ni les emprunts n'avaient aucune valeur, sa capacité à corrompre la société a disparu et est né Milei. Et c'est ce qu'essaye de faire M. Trump en ce moment, c'est avant que les États-Unis n'arrivent dans la situation de l'Argentine, vers laquelle ils se précipitaient grâce encore une fois aux gens de gauche, eh bien, M. Trump est en train d'essayer de rétablir la capacité de l'État en le faisant reculer. Et on se rend compte à ce moment-là que toute une série de subventions qui étaient à l'origine de la des déficits étaient en fait payées aux grands dirigeants de gauche. Je viens d'apprendre avec stupéfaction que la fille d'Hillary Clinton et de Bill Clinton a touché 80 millions d'euros, de dollars de subventions au nom de l'aide à Haïti. Mais d'abord, il n'a jamais foutu les pieds. Et ensuite, 80 millions de dollars,
c'est... Qui aurait dû revenir aux Haïtiens. Il n'y avait rien à faire dans une... C'est vraiment House of Cards, dans ce feuilleton. Pareil, quelqu'un près du pouvoir avait des subventions qui arrivaient de l'État pour soi-disant purifier l'eau des pays pareils. Et c'est pareil, tout va en...
Et donc, on se rend compte... Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que ce USAID a subventionné la presse dans tous les pays du monde pour défendre les thèses woke, en particulier, depuis des années. Ce que j'aimerais savoir, c'est le plus rapidement possible, c'est quels sont les journaux ou les organes de presse en France qui ont touché des subventions de aide. Je sais par exemple que Le Monde a touché 5 millions de dollars, je crois, de Bill Gates. Mais moi, je suis bien certain qu'il y a toute une série de titres en France qui ont dû toucher ça. Et je demande à la presse française, avec laquelle je n'ai aucun contact, non pas de mon fait d'ailleurs, mais parce qu'ils ne me demandent jamais rien, mais de chercher avec soin dans la comptabilité de ces journaux. Est-ce que Libération a reçu de l'argent? Est-ce que Le Monde a reçu de l'argent?
Alors, tu vois, c'est très drôle parce que ça illustre encore une fois ce fait que je pense souvent intimement à propos des personnes. C'est que très souvent, les gens ont tendance dans la vie à te reprocher ce qu'eux-mêmes font. Du style, un mari jaloux va te dire tu m'as trompé parce que lui est allé voir ailleurs. Et les gens, très souvent, avaient à cœur de nous dire, vous, les gaves, vous êtes financés par les Américains et vous êtes, voire, financés par l'Atlas Foundation. Alors, l'Atlas Foundation que l'on connaît, avec qui on a eu de relations amicales, n'ont absolument jamais donné un centime. D'ailleurs, je ne crois pas qu'ils donnent jamais d'argent. Ça n'est jamais que des liens d'amitié, comme quand on peut aller à une conférence ou ainsi de suite.
Ou on peut être invité à une conférence, ce qui m'arrive.
Voilà. Et en tous les cas, ils n'ont jamais, nulle part...
À notre grand regret.
Non, mais je ne crois pas qu'ils donnent d'argent ou qu'ils financent des projets.
Parce que là, c'était inondé sans arrêt.
Voilà. Et pourtant, les
6
gens...
6 000 journalistes ont reçu du pognon de la USAID. 6 000 journalistes, donc j'imagine un grand nombre aux États-Unis. Mais j'aimerais avoir le nom de tous ces journalistes.
Mais bien sûr.
Parce que ça veut dire que tout ce qu'ils ont raconté, c'était sur ordre.
C'est-à-dire
que vous avez 6 000 journalistes aujourd'hui dont vous savez, j'aimerais savoir si...
J'ai pas tellement besoin d'avoir...
J'ai même vu que la BBC avait reçu du fric.
Ouais.
Je me demande si France Inter a reçu du fric.
Eh ben, je pense que oui.
Est-ce que
c'est pareil que la BBC, c'est les mêmes...
Sauf que la BBC, c'est beaucoup plus crédible, parce qu'on se dit, c'est des Anglais. Mmh. Donc que des journalistes français de bas étage se fassent acheter, ça ne me gêne
déjà
pas.
Il y en
avait plein pendant la guerre... qui se sont fait acheter, je vois pas pourquoi seul aujourd'hui se referait pas acheter, mais la BBC quand même c'était autre chose quoi, c'était
et la presse locale aussi qui adore
la presse locale, la presse locale elle faisait plutôt dans les c'est plutôt la presse nationale, c'est les gars qui je voudrais savoir si France Inter dans ces grands trucs, vous savez où il y a tous ces gens qui parlent beaucoup, est-ce qu'ils ont été achetés, est-ce qu'ils ont touché du pognon, et si oui, comment est-ce possible qu'une organisation détenu par l'État français, accepte des subventions d'une organisation américaine dont le but est de faire progresser les idées des États-Unis en dehors de France. Oui, là aussi, c'est que si on a reçu de l'argent, s'il y a des organismes qui sont subventionnés par l'État français, comme toute la presse, ont en plus reçu de l'argent de USAID, eh bien ça nécessite que ces gens-là soient mis, qu'il y ait une enquête et qu'on les mette en prison, parce que c'est de la corruption.
Active. De la corruption active. Alors, Chris, Carpe Diem, te demande « Bonjour, le portefeuille UDL a de très bonnes performances. »
Ah ben tant mieux.
Effectivement. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons créé, en dehors de l'Institut des Libertés, une plateforme qui s'appelle l'Université de l'Épargne, qui vous permet directement de gérer votre épargne et où nous recommandons un portefeuille. Le portefeuille...
On suggère.
On le suggère, oui, bien sûr.
Suggère. On le suggère.
Et donc, il te demande si c'est toujours le moment pour continuer à investir dans les quatre actifs oui. afin de protéger encore plus ton épargne. Ou si tu penses qu'il faut faire évoluer...
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements. La façon
malgré ton dernier papier sur les quatre cadrans.
Les quatre cadrans, tout ça, oui, il y a des choses qui se passent, mais vous savez, ce qu'on essaye de faire dans ce portefeuille, c'est de vous donner une espèce de Jeep. On fait bouger, qui a quatre roues, allez. Et bon, c'est simplement si une des quatre roues commence à être un peu crevée, qu'on va changer le pneu, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas des forcenés du trading, quoi. Donc, par exemple, je trouve que l'or aujourd'hui, bon, il a fait.
Il est haut quand même, hein.
Ben, il est beaucoup monté.
Ouais, ben, du coup, il est haut.
Du coup, il est haut. Et je trouve que l'yen traîne un peu. Donc.
Oui, mais hier, tu me disais qu'il
monte. Il commence à monter. Donc, pour l'instant, si on regarde les quatre, la Jeep, eh bien, c'est que dit le gentil lecteur, c'est que ça tient à peu près la route. Donc, pour l'instant, je suis pas pressé, mais il est pas impossible qu'il se passe des choses dans les semaines qui viennent, comme par exemple les Américains, le gouvernement actuel commence à en avoir ras-le-bol du yen à un niveau absolument insensé, oui. Et disent fasse ce qu'il faut. Donc si par hasard le yen venait à monter brutalement...
Parce que, bon, pour ceux qui ne suivent pas tout, on le dit dans nos émissions les autres souvent, c'est que le yen est très sous-évalué. Alors qu'est-ce que ça veut dire une monnaie sous-évaluée? Ça veut dire bien sûr que cela tire vos exportations. Mais au-delà de ça, toute la zone asiatique aussi souffre de cette hyper-compétitivité qui est apportée par un yen sous-évalué.
Ça empêche les autres monnaies asiatiques de monter vis-à-vis des nôtres.
Voilà. Et les États-Unis, au bout d'un moment, vont forcément se tourner vers la Banque centrale japonaise pour leur dire, dites donc les gars, il s'agirait d'arrêter de tenir votre monnaie à la baisse. Bon,
voilà.
Parce que ça fait quand même plus de 2 ans, là.
Oh, ça fait 3 ans que la monnaie est grotesque. Nous, on l'a recommandée il y a 6 mois quand elle atteint des niveaux imbéciles. Grosso modo, elle était à peu près à 170 yens par euro. Maintenant, on se rapproche de 152, 153, donc c'est déjà monté un petit peu. Mais le niveau d'équilibre, c'est à peu près 130. Donc, si vous faites de 150, où c'est aujourd'hui à 130, ça vous fait 20 sur 150. Bon, il y a un petit... Surtout, c'est un placement.
C'est ce que Charles calcule, qui s'appelle la parité du pouvoir d'achat.
Bon, c'est-à-dire, combien vaut un McDonald's à Tokyo, combien vaut un Big Mac, et combien vaut un McDonald's à Paris. Bon, ben, le Big Mac à Tokyo, il est là, quasiment moitié moins cher que le Big Mac à Paris. Donc, ça veut dire que la monnaie sous-évaluée de...
Ben, d'autant.
Quasiment de 30 à 40%. Donc, logiquement, ça devrait monter. Et ça commence à monter, donc...
Alors, tu as The Unknown qui te pose une question sur les produits structurés. Alors, pareil, tu en as déjà parlé, mais j'aimerais qu'on en reparle parce que c'est une question qui revient souvent. Et alors, il te dit, en tant que particulier, qu'est-ce que vous...
Pas.
Voilà.
Surtout pas, vous touchez pas aux produits structurés. Parce que qu'est-ce que c'est que les produits structurés? C'est-à-dire qu'ils vous disent, on va vous vendre un truc qui va vous garantir du 6 ou 7% sur 7 ans. C'est-à-dire que votre capital est bloqué pour 7 ans. La beauté du portefeuille de l'Université de l'Épargne, c'est que vous pouvez le liquider dans la journée.
Voilà.
Il est complètement liquide à tout moment.
Il est robuste, mais en même temps souple. C'est-à-dire, c'est vraiment une Jeep avec des portes ouvertes. Hop, vous pouvez en sortir. Hop, vous pouvez en rentrer. Et c'est une Lada, quoi.
Incassable, exactement. Tandis que les produits structurés, ils disent, vous nous confiez votre pognon pendant 7 ans. Et vous le retrouverez dans 7 ans et vous aurez gagné 7%. Sauf si, je sais pas, Microsoft venait à baisser de 50%, à ce moment-là, on vous garantit pas les 7%, mais on vous garantit le capital. Vous aurez rien gagné pendant 7 ans. Et donc, ce qu'ils font, c'est il n'y a rien d'intelligent dedans. Ils vendent des options, ils achètent des options. C'est un peu technique. Des options d'achat et des options de vente. Et ces options, ce sont des machins, ils vont vous vendre quelque chose dans quelque chose qui leur coûte 2, ils vont vous le vendre à 10. Et ils vont se faire 8 de marge. Et ça vous protège contre rien du tout. Et si vous étiez un petit peu compétent, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais dans tous ces produits d'options, vous pourriez le faire vous-même, si vous aviez accès au marché, etc. Donc ça veut dire qu'ils utilisent votre ignorance sur le marché des options pour se faire une marge de 7 ou 8%. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous dire, bon, alors, vous avez investi 100, là, et aujourd'hui, ça vaut 104. Alors, tu dis, très bien, ça vaut 104. Tiens, ben, 104, à ce prix-là, j'aimerais bien que vous me le vendiez. Ah, ils disent, ah non, on peut pas vous le vendre. Si on le vendait à 104, ça marcherait pas, donc on va vous le racheter à 96. Donc, ils vous disent qu'il y a un prix, mais si vous voulez le vendre à ce prix-là, vous pouvez pas. Donc, c'est un faux prix. Donc, il est jamais bon dans la finance quand celui qui vous vend un produit calcule aussi la valeur de ce produit. Parce que normalement, ça doit être fait par un auditeur comptable ou quelque chose comme ça. Là, rien du tout, c'est lui qui calcule. Et donc, il vous dit, regardez, ça monte gentiment, il ne se passe rien. Et c'est un attrape-couillon. Donc, surtout, surtout, si vous avez, n'achetez jamais des produits structurés. C'est une saloperie, parce que les banques qui ne comprennent rien au marché financier essayent de vous enfler. Oui. Donc, surtout, vous ne touchez pas à ça.
Alors,
je viens de vous économiser plein de pognon en disant ça, hein.
Oui. Abdoul Mabrouk te demande, bonjour monsieur, madame Gave, pourquoi déconseillez-vous d'acheter de l'immobilier en France alors qu'il est au plus bas niveau ? Justement, ne faudrait-il pas investir au moment d'une crise ?
Ben, au plus bas niveau, oui, si vous achetez, je ne sais pas où, j'y connais rien, mais à Clermont-Ferrand ou à Auch, mais si vous achetez dans le centre de Bordeaux ou à Paris...
Ah, moi, je trouve que... Écoute,
les prix sont insensés.
On passe devant des agences immobilières, parce que je ne sais pas vous, mais nous, en centre-ville, tous les magasins, c'est-à-dire une confiserie, un teinturier, tout est remplacé désormais par des agences immobilières. Je suis entouré d'agences immobilières, à croire qu'il n'y a plus d'autres commerces dans la vie que
non,
des agences immobilières.
Ils font des telles marges, parce que s'ils te prennent 4 ou 5% pour vendre ton appartement ou pour l'acheter... Ben, il suffit qu'ils en vendent un ou deux par an.
Alors, ils ont
prix.
Des locaux florissants avec des superbes grandes
photos couleurs
qui tournent.
Qui
voilà. Et alors, attends, on voit des appartements, nous, en centre de Paris, là, 150 mètres carrés, 3 millions 4, enfin, des trucs,
c'est... Donc, si vous voulez, l'immobilier... Je fais une différence assez essentielle, moi, quand on me pose cette question, entre l'immobilier dans lequel vous allez vivre et l'immobilier dans lequel que vous allez louer pour en faire un rendement. Si vous avez le capital et que vous voulez être dans une maison pour assurer un toit à vos enfants ou à votre famille, tout à fait d'accord. Mais si c'est pour louer, non. Parce que oui, ce qui va se passer, c'est que si la France a des difficultés, ils vont bloquer les loyers, ils vont piquer votre pognon, ils vont
non
vous taxer à 100%.
Non seulement ça, mais aujourd'hui, on le sait, les propriétaires ne sont pas protégés par la loi. Vous avez tout.
Encore une fois, le droit de propriété n'existe pas.
Le droit de propriété n'existe pas. Nous avons dangereusement des incompétents à l'Assemblée nationale, ce qui fait que je...
Ça ne va pas s'améliorer.
Ça me fait très peur d'ailleurs, parce que cette semaine, il y avait Marine Tondelier qui disait oui, il faut absolument une sixième république, il faut réformer la constitution. Je me disais, mais avec les débiles qu'on a en ce moment, une constituante, tu te rends compte de l'affaire ? Avec des gens comme Delogu qui savent à peine écrire. Je dis, mais venez pas me rédiger une nouvelle constitution, les gens, ça va être pire que tout. Et alors là, on nous parle en plus de mettre au Conseil constitutionnel Monsieur Ferrand, qui est un dog...
Mais ça correspond, si vous voulez. Bon, je sais pas s'il a un casier judiciaire, mais enfin, il a eu des états d'ennui juridiques. Je crois qu'il s'en est plus ou moins sorti, donc j'ai pas le droit de dire des saloperies. Mais enfin, ce monsieur n'a d'abord aucune expérience... En principe, au début, au Conseil constitutionnel, on mettait des gens comme...
Écoute, j'avais un oncle qui était ton beau-frère, qui était professeur de droit constitutionnel, qui dirigeait la chaîne d'or de Bordeaux à Talence, qui écrivait au Dalloz. C'était des érudits en droit constitutionnel. Ils étaient capables de vous parler du préambule de 46 pendant des dîners entiers.
Et de la constitution du Costa Rica, parce qu'ils
avaient étudié. Évidemment, c'était des sommités en droit comparé. Donc, si vous voulez, c'était des gens qui vivaient leur droit constitutionnel. Donc, c'est des gens comme ça qui doivent écrire nos constitutions. C'est pas des gens.
C'est pas Monsieur Ferrand qui était agent immobilier, quoi, puisqu'on en parlait.
Parce que vivre une constitution, c'est vraiment un métier, c'est une vocation, c'est des gens qui ont passé des agrégations.
Il faut penser beaucoup au contre-pouvoir, la façon, si vous voulez, dont vous organisez les pouvoirs. Par exemple, moi, j'ai toujours trouvé que la séparation des pouvoirs dans la constitution de la 5e, ça n'existait pas, donc c'était une très mauvaise constitution, mais c'est pas pour ça qu'il faut la changer aujourd'hui, parce que si c'est pour la changer, pour me la mettre dans les mains des hommes d'affaires véreux qui entourent Monsieur Macron, je crains que le pillage de la France ne fasse que s'accélérer. Quoi.
Enfin, bientôt, il n'y aura plus grand-chose à piller, donc rassurons-nous.
C'est là que les systèmes deviennent dangereux. C'est parce
bien
que,
sûr, c'est, et puis c'est...
Parce que la pauvreté, ça engendre la violence et la haine sociale.
Mais bien sûr, c'est quand les hommes n'ont plus rien à perdre qu'ils deviennent dangereux. Bien sûr, c'est dans ces moments-là. Bien sûr, quand tu n'as plus rien qui te rattache.
Quand tu t'es donné un mal de chien pour te faire t'acheter, je sais pas, une petite maison ou des trucs comme ça, et qu'on te la vole, tu deviens ivre de rage parce que ça a été le but de ta vie d'être chez toi, et puis paf, on te la vole.
Bien sûr. Alors, Dano te demande, bonjour, vous parlez souvent de cash dans vos vidéos, mais posséder du cash, du yen, par exemple, pouvez-vous expliquer précisément ce que vous entendez par cash ?
Alors cash, ça veut dire quelque chose qui a, en termes techniques, en termes économiques, si vous voulez, ou financiers, qui a une duration de zéro. C'est-à-dire que ça ne... le temps n'intervient pas dans le calcul de la monnaie. Ça peut, donc, le cash, ça peut être un billet. Bon, ça, c'est du cash. Mais vous pouvez aussi avoir un compte bancaire dans votre banque, qui sera exprimé dans une monnaie étrangère, qui peut être le dollar, la livre sterling, le yen. Si votre banque est de bonne qualité, elle doit avoir des... Et souvent, les banques offrent ce qu'on appelle un fonds de trésorerie, c'est-à-dire dans des monnaies étrangères, dans lesquelles vous pouvez passer, pour ainsi dire, sans frais, de votre monnaie locale, mettons au yen.
Sinon, Revolut le fait très bien.
Revolut le fait très bien, et à ce moment-là, vous avez un dépôt dans une banque en yen qui est à votre nom. Donc c'est comme si vous aviez un paquet de billets dans votre placard, sauf que vendre yen à Paris, je sais pas, vous n'en vendrez pas facilement, parce que là, c'est transformable. Et quelqu'un comme Revolut, vous avez votre cash en yen et vous pouvez à la limite acheter du pain à Paris avec la carte de crédit, et à ce moment-là, ils tireront sur la côte, sur le truc à yen, et cela ça se fera automatiquement. Donc, il faut savoir que les monnaies aujourd'hui n'ont aucune existence objective. Il y a encore les billets, mais on parle de les supprimer. Vous savez, c'est donc les monnaies, maintenant, ça n'est que des 0 et des 1 dans des ordinateurs qui sont valorisés en fonction du taux de change du moment. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun frais, mais ça n'empêche pas les banques d'essayer de vous en piquer. Elles vont vous prendre du 1% en partie. Donc faites attention, mais logiquement, c'est une opération qui ne coûte rien à la banque. Donc elle doit vous coûter un absolu minimum pour vous.
D'accord. Nicolas Pichon te pose la question suivante. Bonjour Charles-Emmanuel, comment se fait-il que l'inflation diminue en France et en zone euro alors que le cours de notre monnaie n'est pas remonté face au dollar? L'inflation étant une baisse de la valeur de la monnaie, y a-t-il une autre donnée à prendre en compte?
Ah, bien sûr. L'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie, mais...
Il est infernal aujourd'hui, ou c'est
ah
moi?
Oui, non, mais
il a eu une nuit
très fatigante, je pense. Ouais. Alors, on va essayer de raisonner comme ça. Les monnaies, vous pouvez vous imaginer qu'elles ont toutes un gros parachute attaché dans le dos. Vous savez, elles sont toutes en train de tomber. Mais alors, vous avez une monnaie de très très bonne qualité, comme le franc suisse, qui a un très gros parachute. Mais il baisse aussi, hein. Et puis vous avez une monnaie comme l'euro en ce moment qui a un très mauvais parachute. Donc si vous êtes dans l'euro et que vous tombez avec le franc suisse, comme vous tomberez beaucoup plus vite, vous aurez l'impression que le franc suisse monte.
Oui.
Mais il ne monte pas du tout. Il baisse moins vite. Tu vois ce que je veux dire? Et si vous voulez comprendre si une monnaie baisse, si toutes les monnaies baissent ou pas, vous les mesurez contre l'or. Parce que les gens me demandent, l'or est cher aujourd'hui. Je leur dis, oui, il est cher. Mais un gramme d'or, ça vaut toujours un gramme d'or. Donc ça veut dire, si l'or est cher, ça veut dire que lui qui bouge pas, ben, toutes les monnaies ont baissé vis-à-vis de lui, quoi. Donc faites bien attention. Les monnaies, c'est pas quelque chose qui vaut en elle-même. Une monnaie, ça vaut rien. Je veux dire, ça n'a pas de valeur. Ça a un prix que détermine le gouvernement ou que détermine des marchés, mais ça n'a pas de valeur. Faire un billet de banque ou transférer de l'argent dans un ordinateur, ça coûte rien. Et donc une monnaie, c'est quelque chose de complètement... c'est une convention dans la tête. Tu penses que ça a de la valeur parce que tout le monde pense que ça a de la valeur. Mmh. Mais en fait, ça a un prix. Et donc la seule chose qui est à la fois de la valeur et un prix, c'est l'or. Et donc, tu dois mesurer la monnaie. Quand ce monsieur me dit que... On a eu de l'inflation alors que la monnaie a baissé vis-à-vis de alors que le dollar est monté. Ben oui, mais il y avait un peu moins d'inflation aux États-Unis qu'en France. Mais il faut pas croire aussi les mesures d'inflation telles qu'elles sont mesurées par les indices des prix de détail, parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que grâce à Trump, de plus en plus, une part de plus importante de l'argent qu'ont gagné les Américains va leur rester. Nous, je sais, qu'on regarde les derniers budgets, qu'une part de moins en moins importante de ce qu'on a gagné va nous rester. Donc c'est une forme d'inflation, c'est-à-dire que mon pouvoir d'achat baisse en France. L'argent que j'ai disponible, après toutes les saloperies que je dois payer, va me permettre d'acheter de moins en moins de choses, ce qui est une forme d'inflation.
Tu as vu hier qu'Anne Hidalgo augmente les frais de mutation à Paris de 5%.
Ben oui, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'immobilier va en prendre plein la tête, quoi. Ça bloque les mouvements de l'immobilier. Donc on arrive toujours à la même chose, c'est que ce que vous devez mesurer, c'est dans le fond, si vous avez 100, que l'État vous en prend 60, ben les 40 qui viennent, et puis si vous passez maintenant à l'État qui vous en prend 110, vous n'avez plus 40, mais vous n'avez plus que 30, ben avec ces 30, vous pouvez acheter beaucoup moins. Et ben oui, ça veut dire que vous êtes appauvri, c'est-à-dire que dans le fond, le coût de l'État est monté, ce qui est une forme d'inflation. Il n'y a pas que l'inflation par les prix, il y a aussi l'inflation par l'État.
Alors, tu as le gauchophobe qui est sur Twitter.
Oui, c'est son nom, le gauchophobe.
Non, c'est son hashtag Twitter.
Ah ben, c'est très bien, le gauchophobe, j'aime beaucoup.
Je regarde de temps en temps, il me fait rire. Bonjour Charles-Emmanuel. Depuis votre réflexion clairvoyante sur la possible émergence du dollar hongkongais comme monnaie de réserve concurrente au dollar américain, avez-vous repéré des signaux allant dans votre sens? Quelle est la procédure pour acquérir du Hong Kong dollar? Est-ce trop tôt?
Non, vous pouvez acquérir du Hong Kong dollar, mais c'est beaucoup moins cher, à mon avis, d'acheter des actions chinoises. Parce que ben, si le Hong Kong dollar, s'il y a une création de crédit à partir du Hong Kong dollar qui se fera à partir de Hong Kong, ceux qui vont gagner sur cette création de crédit, c'est les sociétés chinoises. Donc plutôt d'acheter du dollar de Hong Kong qui va pas bouger contre le dollar américain parce qu'il est fixe, il vaut peut-être mieux acheter des actions de BYD, quoi, j'en sais rien, ou de Tencent ou d'Alibaba, quoi. Moi, ça me paraît plus rusé, quoi, voilà.
Alors, tu as Immortel qui te demande, est-ce que la Chine a les moyens, les BRICS, de baser une monnaie en concurrence, de passer une monnaie sur l'or en concurrence de l'US dollar qui va mal?
C'est une question intéressante parce que quelque part c'est déjà le cas. Je m'explique, c'est que quand vous avez, mettons que vous ayez trop de monnaie chinoise, trop de ce qu'on appelle le yuan, ce qui veut dire monnaie en chinois, ou le renminbi, ce qui est le nom de la monnaie chinoise, donc je vais l'appeler le renminbi. Donc, si vous avez, mettons que vous ayez, vous voyez, un gros exportateur de pétrole, que vous ayez trop de renminbi. Et la question, c'est, la Chine vous interdit d'acheter, beaucoup, d'une certaine façon, d'acheter des, par exemple, des sociétés en Chine. Donc, on dit, le compte capital de la Chine est fermé. Mm-hmm. Tu peux pas vraiment, c'est-à-dire, tu peux les acheter, mais ensuite, tu peux pas ressortir. Enfin, t'es bloqué, quoi. Mais par contre, si t'as trop de renminbi, tu peux les vendre sur le marché d'échange et à un certain moment, la banque centrale va te dire, est-ce que vous voulez que je vous donne de l'or à la place? Donc déjà, la Chine permet une certaine conversion de sa monnaie vers la Chine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant en Chine, il y a le deuxième ou troisième marché au monde futur sur le pétrole à Shanghai. Et ce qui se passe, c'est que là, les transactions se font en renminbi, mais là aussi, si tu as trop de renminbi après des transactions sur le marché futur à Shanghai, tu peux solder les comptes en or. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait une espèce de conversion du renminbi en or par l'intermédiaire du pétrole. Donc on voit très bien la direction dans laquelle ils veulent aller. C'est-à-dire que le renminbi, quelque part, il doit être considéré par tout le monde, comme on dit en anglais, as good as gold, aussi bon que l'or. Et donc, et je vois, par exemple, depuis 2013, ça fait donc 12 ans, les obligations chinoises, donc on a beaucoup parlé ici, ont fait à peu près aussi bien que l'or. Tu vois, tu me disais que l'or était beaucoup monté. Bah, depuis 12 ans, les obligations chinoises ont fait aussi bien que l'or. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont... Il y a une espèce de, dans le fond, la monnaie chinoise a son cours de change qui est fixé beaucoup plus par rapport à l'or que par rapport au dollar, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit bien la dérive. Et donc, ils se dirigent de plus en plus vers ça. Et il faut savoir que le premier producteur d'or au monde, c'est la Chine, et que la plus grosse réserve de change en or du monde, c'est la Chine.
C'est la Chine.
Donc, oui, ils sont en train de dire... Écoutez, vous pouvez avoir de l'or, Ou vous pouvez avoir des Rimimbi, c'est pareil.
C'est pareil.
Enfin, c'est leur but. À partir du moment où tu dis ça et où les marchés sont convaincus que c'est vrai,
que c'est vrai.
Bah, plus personne veut de l'or, tout le monde veut des Rimimbi.
Oui, oui, bah oui.
C'est quand même plus facile.
Pour ceux qui ne savent pas, le Rimimbi et le Yuan, c'est pareil. Hein. On dit les deux alternativement. Le Rimimbi est plutôt la façon écrite, lettrée de le dire, et le Yuan, vraiment pour le trade.
Le Yuan, ça veut dire monnaie.
Voilà, c'est...
Donc pour les Chinois, la monnaie, c'est le Yuan.
Voilà, mais donc les lettrés utilisent le Rimimbi quand ils parlent du Yuan, mais c'est pareil. Il y a une question à propos de l'Amérique latine, j'en ai deux en vérité. Donc tu as Seb qui te demande « Bonjour, les pays d'Europe n'auraient-ils pas intérêt à se tourner vers l'Amérique latine pour se fournir en matières premières et énergie après avoir détérioré leurs liens avec la Russie ?»
Ben oui,
comme alternative, quelque
comme
part.
Alternative,
même si les États-Unis essaient de nous fourguer leur gaz dégueulasse.
Oui, mais le problème, c'est que en Amérique latine, il y a énormément de matières premières, du cuivre, du blé, de la bouffe, de la viande, etc. Mais il y en a un ou deux pays qui sont à peu près indépendants énergétiquement, la Bolivie, je crois, peut-être le Pérou, le Brésil n'est pas loin d'être... Mais ils ne sont pas très gros exportateurs d'énergie. Ce n'est pas leur principale exportation.
Mais est-ce que tu ne crois pas, là, avec ce qui se passe en Argentine...
Depuis la disparition du Venezuela. Parce que le Venezuela, c'est les réserves de pétrole les plus importantes au monde. Mais ils sont tellement crétins, puisqu'ils ont reçu les conseils de M. Mélenchon, qu'ils ne réussissent pas à produire du pétrole, alors que faites un trou, il y a du pétrole.
Et j'ai connu le Venezuela et j'y suis allée à une époque où, effectivement, c'était florissant. Ils prenaient des jets pour aller à Miami faire du shopping. Et bon, il y avait évidemment toujours une misère latente, mais je pense que ça s'est pas amélioré.
C'est ce qu'en disait Churchill, il disait le capitalisme répartit la richesse de façon inégale et le socialisme répartisse la misère de façon complètement universelle.
J'avais 21 ans quand je suis allée au Venezuela et c'est la première fois de ma vie où j'étais chez des amis et je sors en me disant je vais faire un petit tour. Il me dit non mais on n'est pas dans des pays où on va faire un petit tour.
On reste.
Non, tu restes à un endroit, on t'amène à un autre endroit en voiture et on vient te rechercher. Il n'y a pas de... Moi, j'ai l'habitude de... Bah, je vais à la pharmacie, je vais faire un petit tour. Non, non, on ne fait pas des petits tours par ici.
Non, non, non.
Personne ne fait des petits tours.
Ouais.
Et on était dans une hacienda, ils sortaient avec une voiture devant, une voiture au milieu, une voiture derrière, des fusils à pompe et... comme ordre que si l'un d'eux était kidnappé, on payait jamais la rançon.
Non, bah non, parce que ça, c'est toujours pareil.
C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, après.
Ah oui, ouais, voilà, ça, c'est la porte, ça, c'est terrible. Payer la rançon, c'est...
Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que... une autre question sur l'Argentine qui a de l'énergie. Est-ce que tu penses qu'avec la libéralisation actuelle, tu penses que l'économie argentine peut rattraper, voire dépasser les économies d'Europe de l'Ouest en PIB par tête?
Oh ben, vous savez, si on continue à ne rien faire, par exemple, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce grand homme, en 1980... Je crois que le revenu disponible des Français par tête était supérieur à celui des Américains. Maintenant, il est la moitié. Donc, j'ai pas le moindre doute que si on continue, par exemple, l'Argentine se réforme et nous, on continue à pas se réformer, dans 20 ans, le revenu disponible des Argentins sera deux fois supérieur à celui des Français. Il n'y a pas de doute. C'est simplement, si vous êtes géré n'importe comment, vous allez vous ruiner, quoi. Les Français ont cette absolument imbécilité de croire que si on met du capital et du travail, on va créer de la valeur. Et donc, ils vous disent, moi, l'État, je suis capable de vous piquer du capital, et donc ensuite, je vais mettre des travailleurs qui sont tous à la CGT, et on va les mettre ensemble, et ça va créer de la valeur. Ça crée rien du tout, ça crée des trucs qui marchent pas, qui font faillite, etc. Ce qui crée de la valeur, c'est l'intervention d'un gars qui met son capital, qu'on appelle l'entrepreneur, et si ça rate, il disparaît, il fait faillite. Donc le capitalisme ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas un système de faillite. C'est un système darwinien. Très bien. Et comme me disait un de mes amis, le capitalisme sans la faillite, c'est un peu comme l'Église catholique sans enfer, ça marche pas. Depuis qu'on a cessé de croire à l'enfer, les églises se sont vidées, quoi. Donc, ben oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque. C'est ce qu'il y a dans les évangiles, d'ailleurs, la parabole des talents. Il faut que ce gars soit puni s'il a fait de les mauvaises décisions. Et donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'intermédier le risque. C'est lui qui prend le risque. Et donc, s'il gagne, il faut qu'il gagne beaucoup, parce qu'il y en a très peu qui gagneront. Et donc, ceux-là, ils doivent remplacer tous les petits qui ont raté, quoi.
C'est important ce que tu dis, parce que je regardais une émission ce week-end de Laurence Ferrari et Michel Onfray, et où ils reparlaient de Proudhon, et cette fameuse saillie de Proudhon, de la propriété, c'est le vol. Alors, Onfray disait, en réalité, cette phrase n'a pas été vraiment comprise, parce que quand Proudhon disait la propriété, c'est le vol, il ne voulait pas dire que toute propriété était le vol, il disait simplement que les travailleurs, en l'occurrence, qui, par exemple, vont ériger l'obélisque de la Concorde, devraient être payés à leur juste valeur, et que s'ils... s'ils ne le sont pas, donc, la propriété de leur travail qui ne serait pas rémunérée serait alors un vol. Donc, on arrive, en fait, dans cette conception qui est toujours la même, qui est celle de la valeur travail. Oui. Et l'économiste français, en général, va partir d'un postulat subjectif qui est que il y aurait une valeur travail à un instant T.
C'est le drame de l'Église catholique.
Et à côté de ça, si vous voulez, très souvent, c'est ce qu'on fait, on vous explique au travers d'un pot-au-feu. On vous dit que quand vous prenez les éléments d'un pot-au-feu, vous avez par exemple les carottes. Bon, les carottes, on va avoir besoin à un instant T de la valeur travail pour les faire, et vous allez avoir besoin aussi de la valeur capitale, puisque vous avez un tracteur. La valeur, dans le temps, vous allez avoir besoin d'amortir le tracteur. Donc ça veut dire que vous allez avoir une valeur capitale, une valeur leur travail. Mais à la fin de la journée, il faut encore que quelqu'un ait envie de les acheter, vos carottes, parce que si vous n'avez pas de marché de votre pot-au-feu, si personne ne veut l'acheter, ni vos carottes, ni votre pot-au-feu, vous êtes bien malin d'en avoir fait, d'avoir mis et du capital et du travail.
Donc ça vaut rien.
Donc il y a, si vous voulez, la seule rencontre, en fait, de détermination d'une valeur, c'est celle du marché, et c'est à ce moment-là que va être déterminée la valeur du bien.
Et le prix.
Parce que le prix entre une offre et une demande va se concrétiser, et à ce moment-là, on le comprend très bien dans une vente aux enchères, quand vous avez la rencontre de ces deux volontés entre ben, moi j'offre justement ben, un pot-au-feu, ah ben moi j'ai envie d'acheter un pot-au-feu.
Oui, et probablement la valeur du pot-au-feu à midi et demi sera plus élevée qu'à 5h du soir. Parce que ben, les gens à 5h du soir, ils n'ont pas envie de se taper un pot-au-feu, alors que midi et demi, ils aimeraient bien. Donc si vous voulez, ce prix que vous déterminez à ce moment-là, il est instantané et il n'est pas répétable.
Non, il avait un coût, et d'ailleurs, et peut-être qu'à 13h30, il vaudra un peu plus cher, parce que là, il va arriver quelqu'un qui n'aura vraiment pas le temps d'attendre, et qui va vraiment vouloir un pot-au-feu tout de suite, parce qu'il a 10 minutes pour bouffer. Voilà, donc là, ça. Tu peux avoir un prix
donc,
qui monte d'un coup.
Il faut bien comprendre que la plupart des gens s'appuient sur les prix pour dire ça a de la valeur, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre que ce prix n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il est vrai au moment où se passe la transaction, mais que le lendemain, il peut être faux. Et donc,
qu'il faut partir des prix pour déterminer la valeur et non pas de la valeur pour déterminer
oui,
le prix. Ça, c'est absolument fondamental.
On ne peut pas déterminer à partir du coût du travail combien vous allez vendre. Si vous faites les meilleures diligences en 1880, au moment où les trains se mettent en place, ben, votre diligence, elle ne vaut rien du tout.
Tout ça pour dire qu'il n'existe pas per se de valeur travail. Et
non,
qu'on ne peut
pas
dire tous les hommes, d'ailleurs, encore une fois, dans les évangiles, l'ouvrier de la dernière heure.
Ben voilà.
Mais le Christ l'avait déjà compris. Il n'y a pas de valeur travail. Votre travail vaudra
ce que quelqu'un est prêt à payer pour vous. Ce qu'il faut bien comprendre dans le capitalisme, c'est que s'il y a une transaction libre, le pot-au-feu, là, c'est que les deux parties sont gagnantes. Tandis que s'il y a un prix qui est imposé, il y a donc soit le vendeur, soit l'acheteur qui vont payer quelque chose pour lequel ils n'étaient pas d'accord. Donc, la beauté du capitalisme, c'est que l'espérance de gain est forte pour les deux parties, tandis que dans tous les autres systèmes, il y a une partie qui est gagnante, une partie qui est perdante. Et le socialisme, il y a toujours une partie qui est gagnante, c'est l'État, une partie qui est perdante, c'est l'entrepreneur. Et c'est pour ça que ça ne marche pas.
Ce qui remet en cause aussi le salaire minimal, entre
c'est
parenthèses...
C'est une idiotie, le salaire minimal, ça l'a toujours été.
Puisque, justement...
Je vous recommande à tous, on fera peut-être un truc, quelque chose sur lui, d'ailleurs, la lecture de Thomas Sowell.
Oui.
Thomas Sowell, c'est probablement un des plus grands économistes de tous les temps, et probablement le plus grand philosophe aujourd'hui en existence aux États-Unis. Il a 92 ou 93 ans, c'est un homme remarquable.
Très jeune.
Oui, en pleine forme. Et donc, moi, je vais sans doute faire avec Emmanuel une recollection d'un de ses livres.
Alors, il faut que je le lise, mais il est grand comme ça.
Il y en a deux qu'il faut lire. C'est un sur les imbécilités sociales, la justice sociale, qui est remarquable, et un autre qui est plutôt des leçons d'économie sur des sujets comme, par exemple, pourquoi y a-t-il toujours 10 ans de réserve de pétrole et jamais plus, etc. C'est très, très intelligent. Mais c'est bien écrit, c'est facile à lire, la traduction est parfois un peu lourde, mais c'est ce qui s'est fait de mieux depuis von Mises et Milton Friedman sur les marchés, la liberté.
Alors,
Thomas Sowell.
Sowell, oui. Tu as Fogel qui te pose la question, est-ce qu'une baisse des taux par la Fed ne risque-t-elle pas de promouvoir des mauvais investissements, de relancer l'inflation et au final, lors de la remontée des taux US qui s'en suivrait, provoquer une nouvelle crise ?
Bien sûr, c'est ce qu'on vit depuis toujours. Alors, ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas faire trop... Essayons de raisonner là, parce que ce qui est en train de se passer, c'est la... casser tous ces systèmes de rente et de corruption comme est en train d'essayer de faire M. Trump, ça va faire monter la rentabilité du capital investi aux États-Unis. C'est-à-dire, à la place de filer du pognon
à toutes ces associations.
À tous ces crouillots, là. Les types qui le. Ça va libérer des chaînes, ça va libérer des capacités. Donc, logiquement, ce qu'on appelle. Le taux naturel, c'est-à-dire la rentabilité du capital investi, monte, les taux d'intérêt doivent monter. Donc, aussi curieux que ça paraisse, si M. Trump réussit...
Les taux remonteront.
Si la Banque centrale ne se met pas à foutre à faire n'importe quoi, les taux d'intérêt devraient monter. Parce que la rentabilité du capital investi monte, et donc il y a plus de gens qui investissent, et donc la demande de capital augmente et les taux montent.
Il faudrait auditer la Fed.
Mais tu sais qu'on en parle ?
Oui, on en parle.
On en parle, c'est...
Louis-Vincent m'a envoyé un mime hier où on disait « Let's audit the fave » et tu voyais Rand Paul sur son vélo, genre « J'arrive
!» Rand Paul, c'était celui qui veut...
Qui voulait auditer la fête depuis 15 ans.
Depuis toujours. Et donc, c'est un vieux libertarien, mais il est sympa comme tout. Là aussi, vous pouvez écouter de temps en temps, il a un site, Rand Paul, c'est très bien aussi.
Et vous, j'étais allé à l'époque au Keto Institute pendant l'été, c'était très bien pour suivre les formations libertariennes. Et il y avait son fils, Rand Paul.
Qui est sénateur maintenant.
Oui, mais qui était en lice. Et honnêtement, c'était le champion choisi un peu par les libertariens pour se présenter. Et le pauvre a eu un cancer, ce qui fait que...
Il était un peu diminué.
Il a revu ses prétentions. Mais sinon, on avait suivi des conférences, c'était formidable.
C'est le grand ennemi de M. Fauci. Bon, Fauci, c'est celui qui a fait toutes les saloperies.
Oui, toutes les saloperies et qu'on attend au tournant, qui a été gracié, cela dit.
Mais ça va le tuer d'être gracié, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu as été gracié à ce moment-là, tu peux être interrogé sur les saloperies que tu as fait et tu n'as plus le droit d'invoquer le 5.
Le cinquième amendement, could be incriminating against me.
Il est obligé de dire la vérité et s'il refuse de le dire, il est condamnable. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que M. Fauci va être obligé de dénoncer tous ses copains en crime. Ou alors, si on prouve qu'il les a pas dénoncés, à ce moment-là, lui, il est condamné. C'est-à-dire qu'il a fait une faute après...
Après le pardon.
Le pardon. Donc, c'est-à-dire que le pardon enlève au type la possibilité d'invoquer le cinquième.
Interesting.
Donc, ça change tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait une boulette, là, monstrueuse.
Mais je crois, tu peux aussi refuser la grâce présidentielle.
Ah oui, il n'y en a aucun qui l'a fait. C'est
oui,
parce qu'ils étaient tous innocents, mais il n'y en a aucun qui l'a refusé.
Voilà, mais tu peux, dans l'absolu, écoutez, moi je suis un homme innocent, j'ai pas besoin de gracier.
C'était la première fois, je crois, dans l'histoire des États-Unis qu'on donnait des grâces à des gars au cas où ils auraient été poursuivis. Ils n'étaient pas poursuivis.
Mais c'est des grâces préemptives.
Des grâces préemptives sur des gars qui crient leur
parfaitement innocent.
Parfaitement innocent.
Libérer cet innocent.
Oui, on avait ramassé les suspects habituels, comme dans Casablanca. Ouais.
Comme d'habitude, tu as Aurélien qui te demande ce que tu penses de la chute de l'Europe et où tu partirais si tu devais partir.
Alors, maintenant, la réponse devient beaucoup plus facile. Vous pouvez aller faire un tour au Texas. Ça me paraît l'endroit où tout va se passer maintenant dans les années qui viennent, pour des tas de raisons. Dès que M. Trudeau aura dégagé pour être remplacé par M. Poilièvre, je crois.
Oui.
ou Poilievre, c'est un bon nom français, ça, d'ailleurs. Il est très sympathique, Monsieur Poilievre. On le connaît un peu.
Malheureusement, notre Québécois préféré, Mathieu Bock-Côté, ne l'aime pas. Ce n'est pas son préféré, parce qu'il préfère les indépendantistes québécois. Alors que Poilievre est un conservateur tradit.
Le problème de Mathieu, c'est que lui, il est québécois. Il n'est pas canadien. Tandis que là, on parle du gars qui va gouverner le Canada. Alors la question, qui est une autre question, est-ce qu'il faudrait que le Québec sorte du Canada?
Ils demandent que ça, Gaspésie libre.
mais je ne sais pas si Mathieu serait heureux si le Québec sortait du Canada pour aller se coller avec les États-Unis, par exemple. Je ne sais pas si ça lui ferait plaisir.
Non.
Voilà, le problème, c'est que c'est difficile, tout ça. L'histoire d'autonomie et d'indépendance, c'est... Donc oui, on pourrait peut-être aller aussi au Canada, Colombie-Britannique, c'est pas mal. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays? Non, mais...
Il fait froid en ce moment-là, il faisait moins 46 à Toronto.
46, oui. Peut-être, allez, pour les vrais aventuriers, l'Argentine.
Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. Hein.
Oui, non, mais l'Argentine avec le nouveau Milei, là, c'est assez drôle.
C'est vrai. Enfin, c'est quand même un style de vie assez différent de
l'Europe. Il faut être assez balèze, oui.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'impôt sur les transactions financières?
C'est une connerie.
On est d'accord.
Je veux dire pour une raison très simple. D'abord, il faut se rendre compte qu'un impôt fait baisser la rentabilité du capital investi. Déjà, le capital supporte des impôts monstrueux en France. Je crois que c'est le pays où le capital est le plus taxé. Donc, rajouter un impôt alors que... C'est-à-dire que ça fait baisser la rentabilité du capital investi, c'est-à-dire que ça fait monter le chômage. C'est le problème de l'État français, c'est pas qu'il manque de recettes, elles sont à un plus haut historique, les recettes, c'est qu'il dépense notre pognon comme un cochon. Donc il faut pas réguler le secteur privé, qui est déjà en train de crever de régulation, il faut s'attaquer au mammouth qu'est l'État. Donc c'est exactement le... Vous savez, c'est qu'il y a quelques années, je me souviens, les États-Unis étaient très fâchés avec... c'était avec l'Iran, je crois.
Sûrement.
À l'époque, c'était il y a longtemps encore. Et du coup, ils ne voulaient pas attaquer directement l'Iran, donc ils avaient descendu un avion irakien, je crois, qui transportait des passagers. Mais ça arrive dans les cours de récréation.
C'est le principe de si tu es fâché, tape ton chien. Quoi.
C'est le principe. C'est le principe
femme t'a énervé, tu tapes ton chien.
C'est ça l'idée. Donc, taper le chien aujourd'hui, vous allez le faire crever, la pauvre bête. Donc, c'est une de ces idées imbéciles. Comme quoi, le capitalisme sera responsable de la hausse du chômage.
Alors, j'ai une question qui revient souvent aussi à propos de l'Asie, quand tu dis... Investir sur le yen, ça c'est à court terme, donc la question se pose moins, quoique elle se pose par rapport au Japon, mais elle se pose aussi pour l'Asie, à propos de la natalité, c'est-à-dire il y a quand même une baisse des naissances, donc est-ce que jouer la croissance d'un pays dont les naissances sont plutôt en berne pose pas un problème?
Bien sûr. Mais si tu veux, ça veut dire qu'ils vont avoir un problème dans 25 ans, parce que là, ils ont quelques 20 ou 25 ans de retard sur nous. Donc, d'ici là...
C'est à propos des problèmes dont...
Celui qui a le vrai problème aujourd'hui, c'est l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, dont la natalité se sont effondrées depuis longtemps. Donc, c'est maintenant que les classes, les baby-boomers... partent tous à la retraite et qu'il n'y a plus personne pour les remplacer. En Chine, ça arrivera d'ici 25 ans. Donc on a encore le temps de voir.
Il y a plus de baby-boomers que de naissances.
Bien sûr. On n'a jamais refait les nombres de naissances des baby-boomers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le baby-boom a commencé en 42. C'est-à-dire au moment où la France était au plus bas. Les Français se sont dit, les gars... on a perdu cette bataille, mais on va faire plein d'enfants, comme ça peut-être on va rendre...
Oui, mais tu vois, plein de gens disent, on peut compter, comme on est au plus bas, sur un coup de pied, mais à l'époque, pilule, et c'est plus du tout la même mentalité non plus.
C'est plus la même mentalité. Moi, je me souviens, quand ma mère était à Amiens, après la guerre, elle avait 5 enfants, c'était quasiment la honte familiale, parce que il y avait plein d'enfants, il y avait plein de familles de 10, 11, 12 enfants. Il y avait un effort des femmes françaises incroyable.
C'était vers Amiens, il y avait des guibons. La fameuse taper un buisson, il en sort un guibon.
C'est ça.
des familles de 14, 18.
Et moi, j'avais un copain, il s'appelait Christian Huglot, il avait 12 enfants, il avait 12 frères et sœurs. Lui, il était plus jeune que le fils de son frère, tu vois.
Florence Boisneau, la famille Vulpian, ils étaient 14.
Ils étaient 14, c'est ça. Mais c'était assez courant.
Oui, oui.
C'était,
je crois qu'à ce moment-là, d'ailleurs, tu avais les cartes de réduction SNCF et tu avais moins 70, moins 80%.
Puis tu avais, quand il y avait des tickets de rationnement pour la bouffe, tu avais des tickets spéciaux et tout. C'était,
pour les familles de...
Pour les familles nombreuses.
Ah, oui, là, on était...
Il y a eu un effort aussi, la législation a... Et celui qui a détruit la législation favorable aux familles en France, c'est Hollande, qui les a soumis à... il fallait que tu sois en dessous d'un certain revenu. C'est-à-dire qu'Hollande voulait bien que les pauvres fassent des enfants, mais surtout pas les riches.
En fait, quand tu regardes les statistiques, tu vois très bien ce qui se passe. Tu as les familles de femmes du Maghreb qui vont avoir entre 3,46 et 3,56 enfants, donc 3,5, on va dire. Parce que on le voit quand on est dans le sud, tu as une acceptation de mode de vie souvent par la religion aussi, qui sont tenues donc avec un modèle de famille traditionnelle. Et les femmes caucasiennes qui, elles, sont tenues par des normes de « il faut travailler, il faut ainsi », sans avoir le relais ni familial, puisque la structure familiale n'est plus là, ni le relais social de nos jours, puisque tu n'as plus les crèches, les maternités, et ainsi de suite, qui, effectivement, ne s'en sortent pas, parce que c'est des moments très difficiles, et je l'ai vécu en tant que mère de famille aussi. Quand tes enfants sont petits, que tu dois continuer à travailler, c'est la croix et la bannière, tu ne t'en sors pas, tu es asthénié. Et qui, du coup... deuxième enfant, disent, mais moi, je peux pas plus. Je ne peux pas plus avec tout ce qu'on me demande. Et donc, voilà où on se retrouve.
Voilà. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que la natalité aussi, est en train de tomber en dessous de 1,4. Et en dessous de 1,4, statistiquement, ça devient, au fur et à mesure qu'on reste en dessous de 1,4 plus longtemps, ça devient non renversable.
Et les salaires ne permettent pas aux hommes de dire à leurs femmes aujourd'hui, tu peux rester à la maison, on vivra sur un salaire. Sauf à accepter vraiment un style de vie très différent.
Sauf à sortir de Paris, aller vivre quelque part.
C'est parce ce que je te dis, accepter un mode de vie très différent.
L'immobilier à Paris exige d'avoir au moins deux salaires. C'est monstrueux.
Et donc, comment tu fais si tu dois avoir deux salaires, les enfants ?
Nos enfants, peut-être nos petits-enfants, hériteront de quatre appartements ou maisons à Paris. Et
si elles ne sont pas rendues insalubres par des nouvelles lois qui nous expliquent que c'est des passoires thermiques et qu'il faut désormais des triples fenêtres et tout un tas de changements qu'aucune personne ne peut se payer.
Non.
Voilà. Ça, c'est une question qui revient souvent et ça va être parmi les dernières. Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de l'Afrique ?
Ah, pourquoi est-ce que je ne parle jamais de l'Afrique ? C'est parce que moi, je suis une bête un peu curieuse. Je fonctionne avec la liberté des marchés financiers. C'est-à-dire qu'il faut que... il faut que ce soit développé dans la société une notion assez profonde du temps. Parce que
c'est l'approfondissement du capital.
Du capital, l'approfondissement du capital avec le temps. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose, il y a des taux d'intérêt de marché qui permettent de savoir combien quelque chose vaudra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Et l'Afrique, pour l'instant, à peu près nulle part, sauf dans quelques pays un peu anglo-saxons, n'a réussi à cet approfondissement. Donc, il n'y a pas vraiment de marché financier en Afrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore réussi à intégrer le temps dans le calcul économique.
Alors ça, c'est souvent un...
Je ne sais pas pourquoi.
Alors justement, j'ai
bien... C'était un peu la même chose en Amérique latine, ils ont aussi un problème avec le temps.
D'aucuns souvent critiquent l'usure, le prêt à usure. Mais en même temps, sans rémunération à juste titre du capital investi, tu n'as pas d'approfondissement du capital. Donc le prêt à usure, même si dans la première église chrétienne, c'était Saint Augustin, je crois qu'il avait mis...
Le prêt à usure, je comprends qu'on l'interdit si on est dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire s'il y a zéro croissance. Parce que ça veut dire que celui qui emprunte aujourd'hui va avoir un niveau de vie beaucoup plus bas dans le futur. Mais si tu empruntes pour créer de la croissance... À ce moment-là, si tu ne rémunères pas celui qui t'a prêté l'argent, tu t'enrichis de façon complètement anormale. Donc, l'interdiction du prêt à intérêt, comme ils le font dans les sociétés musulmanes, ça veut dire simplement un truc, c'est-à-dire, ils pensent que la croissance n'existe pas.
Oui, et donc, ce faisant, ne permettent pas d'approfondissement du capital, puisque donc, en tant qu'entrepreneur, tu ne pourras pas acheter ta deuxième machine.
Mais voilà.
Donc,
il
n'y
a pas de marché du temps. Ce qui a réussi l'Europe pendant 10 siècles, c'est à créer un prix pour le temps. Et les Asiatiques ont très bien embrêché, parce que ça, ils ont bien compris. Les États-Unis, c'est venu normalement, etc. Mais l'Afrique et l'Amérique latine parce qu'elle était principalement catholique, et l'Afrique...
Et que les catholiques n'ont jamais rien compris à la monnaie.
Et les catholiques n'ont jamais rien compris à l'économie, d'ailleurs. Alors que c'est en clair dans les évangiles, mais ça veut dire que c'est l'Église qui n'a pas compris.
C'est l'Église qui n'a pas compris. C'est le dogme.
L'Afrique et quelque part le Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'au Moyen-Orient, quand on regarde les grandes fortunes, etc., c'était... soit des chrétiens, soit des juifs, qui avaient réussi à intégrer le temps. Donc, ce qui manque en Afrique, c'est l'émergence d'une compréhension du temps, que je dépends pour l'instant, donc je ne peux pas y investir, parce que moi, je n'investis pas dans une entreprise sur le cash flow qu'elle va gagner, puis elle va me payer des dividendes.
Sans compter que le franc CFA est une éternelle usine à gaz montée par des inspecteurs des finances stupides.
Maintenant, il n'y a plus de... Mm.
Il faut que cette saloperie disparaisse et que les pays nationaux prennent leur monnaie.
Il n'y a plus personne qui... Plus personne ne nous parle en Afrique, alors. Donc, ça ne sert à rien, le français. Enfin. Donc, voilà ce que je veux dire, c'est que c'est... S'ils veulent lire, il y avait un livre de Leonard Bernstein qui était très, très bon, qui s'appelait... Betting against the gods, c'est-à-dire parier contre la divinité. Et c'était la description par ce type qui était remarquable de toute la façon dont on avait, en l'espace de 10 siècles, réussi à intégrer le temps au travers des taux d'intérêt, comment ça avait été fait, comment on avait compris les améliorations, les reculs, etc. Et c'est un livre qui était passionnant. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre la façon dont l'Occident a émergé par une meilleure compréhension du temps, c'est un très bon bouquin. Betting Against the Gods.
Voilà.
Il a dû être traduit, d'ailleurs.
De toute façon, ça va être un immense avantage de l'intelligence artificielle désormais, c'est qu'on va pouvoir traduire tous ces livres qui n'étaient pas jusqu'à présent. Alors, je suis désolée pour les traducteurs que ça va sûrement mettre. Cela dit, je pense qu'un traducteur, par exemple, qui va traduire, je ne sais pas, Mario Vargas Llosa ou des choses où il est besoin de mettre une âme quelque part au-delà dans la véritable littérature.
Dans un cash flow, il y a assez peu d'âme.
Voilà, c'est ça. Mais pour ce qui est de la littérature pratique, enfin des livres, de choses un peu pratiques, ça va être très bien. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir pu traiter toutes vos questions encore une fois ce mois-ci. J'espère que cela vous aura intéressé. La semaine prochaine, nous partons faire une conférence à une conférence qui s'appelle l'ARC, Alliance for Responsible Citizenship, qui se tient à Londres, comme tous les ans, où nous sommes ravis d'aller.
4 000 invités
de participer.
C'est le contre Davos.
C'est un énorme forum de conservateurs libéraux. Et donc, on recensera ce qui est passé dans l'émission de la semaine prochaine.
Qui aura lieu le jeudi, pas le mardi.
Oui, donc il y aura un peu de délai dans l'émission d'après, parce qu'on la tournera le jeudi, oui. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci mille fois.